1 Thessaloniciens, nous sommes dans le chapitre 4, verset 13, nous avons vu comment Paul nous exhortait à marcher avec Jésus-Christ pour plaire à Dieu. Il nous a parlé de la volonté de Dieu en matière de sanctification, comment nous devons être mis à part pour l'œuvre de Dieu, et le principal obstacle, c'est l'immoralité sexuelle, l'inconduite. Il nous demande de tenir nos corps dans la sainteté et l'honnêteté, car nous ne sommes pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous avons rappelé que nous sommes bombardés par l'immoralité sexuelle, que c'est une grande tentation dans nos vies, et que peut-être nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande, mais nous pouvons lui demander son aide. Un autre message qui nous a touchés, c'est le fait que cette vision de la femme qui avait une hémorragie pendant 12 ans et qui voulait être guérie. Et tout ce qu'elle a, elle savait ce qu'elle voulait faire, c'était de toucher l'ourlet de la robe de Jésus. Et le pasteur Brandt de Rome, qui partageait cette vision qu'il avait eue, nous encourageait dans tous nos combats contre le péché, notamment dans la pureté sexuelle. C'était de toucher Jésus. De toucher Jésus pour être instantanément guéri. Et nous savons que le diable aime bien nous garder dans les péchés habituels, où nous pouvons avoir des victoires, mais nous retombons dans les péchés et nous sommes découragés. Et notre vie chrétienne, au lieu d'être une vie constructive, constructrice, qui va de l'avant, qui annonce l'évangile autour de nous, c'est une vie repliée sur nous-mêmes avec nos combats pour rester dans la sainteté. Et il nous encourageait à aller toucher Jésus, à toucher l'ourlet de sa robe. Alors comment on fait ça? Je crois déjà c'est de lui parler, d'être dans la prière, c'est d'être en communion avec lui en lisant la parole, en le cherchant, en pensant à lui toute la journée. On va voir que Paul nous annonce que le Seigneur va revenir nous toucher pour être guéri de ses péchés habituels, pour être guéri aussi de nos maladies. Souvent la solution c'est de toucher Jésus, d'aller vers lui, de se sentir proche de lui, parce que on s'approche de lui. Vous vous souvenez que Dieu nous dit « Approchez-vous de moi » et c'est pas lui qui s'en va. C'est nous qui nous éloignons de Dieu et de Jésus-Christ. Voilà. Et il y avait un autre encouragement dans la marche spirituelle du chrétien, non seulement la pureté sexuelle, la sanctification, mais aussi l'amour fraternel. Et Paul était très, très bon pour encourager les gens. Au lieu de leur dire « il faut vous aimer les uns les autres », il dit « vous faites déjà un très bon travail dans l'amour réciproque, mais progressez encore ». Et ça, c'est un rappel que, quel que soit l'état de notre vie chrétienne, il y a toujours un progrès possible. On n'atteint jamais la perfection. Même Paul disait qu'il n'avait pas atteint la perfection, mais qu'il oubliait le passé, qu'il tendait vers la vocation, la récompense de la vocation céleste en Christ Jésus. Verset 13, nous allons lire ensemble les versets 13 à 18 de 1 Thessaloniciens 4. Dans lesquels l'apôtre, c'est page 232 dans la Bible à la colombe, dans laquelle l'apôtre Paul nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour, la venue, la seconde venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Première remarque, il y a à trois occasions, l'apôtre Paul nous dit de ne pas être ignorant de quelque chose. Et en fait, dans ces trois domaines dans lesquels il nous dit, il nous recommande de ne pas être ignorant. Aujourd'hui encore, c'est là qu'il y a le plus de controverses. C'est là qu'il y a le plus de désaccords, ou des domaines dans lesquels il y a le plus de désaccords. Et c'est un peu comme si Paul avait été conscient de la difficulté de ces sujets et de la tendance des personnes à se disputer avec des opinions différentes à propos de ces sujets. On va revenir à ce dont il nous parle ici. Un des autres domaines où il dit qu'il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, c'est le domaine des dons spirituels. C'est dans 1 Corinthiens 12, 1. On peut regarder juste rapidement pour vérifier qu'il nous dit bien. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Et il continue tout un passage dans lequel il explique qu'il y a des dons spirituels, qu'aucun don n'est obligatoire pour être béni par Dieu et avoir reçu le baptême de l'Esprit-Saint, que ces dons ne sont pas pour notre propre glorification. Moi j'ai ce don et toi tu l'as pas, je suis donc un chrétien supérieur à toi. Non, les dons sont pour l'édification du corps de Christ, pour faire grandir le corps de Christ, ce sont des outils, pas des fins en soi. Et là, dans le monde chrétien actuel, il y a la plus grande confusion, encore une fois parce que les gens ne connaissent pas les Écritures. Ils pensent connaître l'Écriture parce qu'ils ont entendu ou ils ont lu une fois, mais après il y a des traditions humaines qui remplacent la vérité des Écritures. Et personne n'est à l'abri, je ne dis pas que Calvary Chapel est supérieur aux autres, mais dans l'humilité, nous devons revenir aux Écritures. Et si on débat de ces sujets, débattons avec la Bible à la main et le cœur ouvert, pas avec des partis pris arrogants. L'autre domaine dans lequel il y a la plus grande confusion aujourd'hui, parmi les chrétiens, se trouve dans Romains 11, 25. Regardons aussi Romains, juste avant, après le livre des Actes. Romains 11, 25. Je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, afin que vous ne soyez pas arrogants. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu n'a pas fini de s'occuper d'Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël. Certaines personnes nous disent, qu'est-ce que vous avez, vous, Calvary Chapel, à vous préoccuper ainsi d'Israël? C'est biblique, c'est dans la Bible. Si vous ne vous souciez pas d'Israël, vous devez enlever les passages de Romains 11, 9, 10 et 11. Vous n'avez rien compris à la Bible. D'où l'intérêt de connaître Israël, d'où l'intérêt de supporter nos frères chrétiens israéliens, les juifs messianiques. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on doit soutenir tout ce que fait le gouvernement israélien en ce moment. Mais à la base, nous devons prier pour Jérusalem chaque jour. Nous devons, parce que c'est le plan de Dieu. Et le plan de Dieu va s'accomplir, qu'on le veuille ou non. Mais il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut lutter contre Israël, qui ne comprennent pas qu'on s'intéresse à Israël. Je suis désolé, mais ces chrétiens n'ont rien compris à la Bible. Encore une fois, ils ne connaissent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Et finalement, le domaine où il y a encore, là aussi, le plus de controverses dans les églises, c'est sur les doctrines de la fin des temps. Et Paul, encore une fois, si je m'échauffe un peu, c'est pas contre vous. C'est parce que ce sont des sujets qui reviennent en permanence quand on fréquente les autres chrétiens. Tant qu'on fait des rassemblements pour chanter, il n'y a pas de problème. Tant qu'on fait des rassemblements pour manger de la pizza, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on en vient à parler de ce qu'on croit, les gens se taisent parce que il n'y a pas d'accord sur ces sujets dans lesquels Paul disait « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Et encore une fois, ça veut dire que ne croyez pas ce que je vous dis, allez vous-même dans la parole comme les chrétiens de Bérée pour voir ce qui est dit. Et là, nous commençons en parlant de la résurrection, de retour de Jésus, de la grande tribulation. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Autrement dit, je sais qu'il y en a qui vont partir à droite et à gauche en live, ça va être la pagaille complète, mais regardez ce que je dis dans ma parole. Avec l'humilité de dire, bon, mais il y a des choses que je ne comprends pas, il y a peut-être d'autres interprétations possibles, mais je me fais une opinion par moi-même. Pas parce que j'appartiens aux baptistes ou à Calvary Chapel ou à la doctrine de la prospérité. Non, je viens à la parole de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il ne parle pas des gens qui font la sieste. Il ne parle pas des gens qui ont du mal à se réveiller le matin pour être à l'heure à l'église. Aucune. Non. Oui, peut-être un peu. Essayons d'être à l'heure. Si on commençait à 11h, je suis sûr qu'on arriverait tous à 11h15. Ça, c'est pas Paul qui parle de ça, excusez-moi. Là, c'est pas une parole du Seigneur, c'est une parole de Pierre. Ceux qui dorment, c'est un euphémisme, une façon délicate de parler de ceux qui sont morts. On l'utilisait dans le monde païen. Jésus disait, cette petite fille n'est pas morte, elle dort seulement. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est définitive pour l'homme, c'est la fin complète. Et donc c'est non seulement un euphémisme, mais c'est une façon de dire que la mort n'arrête pas les choses. Est-ce que vous croyez que tout s'arrête avec la mort ? Certains essayent de se convaincre. Je pense qu'il faut faire un effort. Alors c'est vrai que certains disent, mais je me rappelle avant ma naissance, je me rappelle de rien, j'étais pas. C'est faux, vous étiez déjà dans la pensée de Dieu, qu'il vous a créé, il vous a connu avant la fondation du monde. Mais la Bible nous dit que Dieu met l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est un passage de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 10 ou 12, je crois que c'est 10. Il a mis dans nos cœurs le sentiment de l'éternité. Si vous avez eu la triste expérience de voir un être cher mort devant vous, peut-être à l'enterrement, avant qu'on referme le cercueil, vous avez vu la personne morte. C'est difficile de croire que tout est là. Je me souviens, j'avais 19 ans, quand je me suis trouvé devant la dépouille mortelle de mon papa. Malheureusement, je ne crois pas qu'il était sauvé, je n'étais pas sauvé à l'époque. Mais on a vraiment le sentiment, devant la dépouille mortelle d'une personne, d'avoir une coquille d'escargot vide. Ce n'est pas toute la personne. On fait souvent une petite bise sur le front de la personne. On est choqué par le fait que c'est froid, qu'il n'y a plus de chaleur. Mais même quand je n'étais pas chrétien, je me disais, ce n'est pas possible, il y a une autre partie de cette personne qui est allée quelque part. Et ça, c'est une façon de témoigner à tous les hommes. Parce que la Bible dit que Dieu a mis cela dans le cœur de tous les hommes. Pas seulement les chrétiens, les catholiques, les protestants, les musulmans, les gens qui ont une religion. Tous les hommes, sans exception, savent qu'il y a quelque chose après la mort. S'ils disent qu'il n'y a rien, c'est par facilité, pour se voiler la face et ne pas prendre leurs responsabilités devant leur vivant, ne pas se poser de questions difficiles. Mais vous pouvez leur poser les questions. Nous avons eu plusieurs orateurs et il y en avait qui étaient très très sérieux, même avec toujours avec beaucoup d'humour. Il y en a d'autres qui, il y en avait un en particulier qui fait le tour du monde pour expliquer Jésus, le Père, le Saint-Esprit, la vie de l'Église, mais il le fait d'une manière très drôle, comique. Il est plein de respect pour la parole, mais s'il était là, vous seriez en train de rire tout le temps. Mais il fait ça parce que c'est une façon de faire passer des choses très sérieuses. Lorsque vous y attendez le moins, il vous transperce avec l'épée de l'esprit, avec la parole de Dieu. Et il nous disait qu'on a la mauvaise habitude de se regarder dans le miroir le matin. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, on n'est pas satisfait de ce qu'on voit dans le miroir. C'est pour ça qu'on se peigne, si on a des cheveux. Si on n'en a pas, peut-être qu'on en met de la lotion pour faire pousser quelques poils. Ou on s'est résigné depuis longtemps. On se brosse les dents, on se rase. Mais il nous rappelait que notre corps se détériore. Qu'il y a une loi plus forte que la loi de la musculation, c'est la loi de la gravité. Et que ces muscles sur lesquels on travaille, un jour ou l'autre, la gravité va les rappeler vers le bas. Et c'est une fatalité, on ne peut pas y échapper, même si on prolonge l'aspect de jeunesse encore 10 ou 15 ans, si on fait de la chirurgie esthétique. Notre corps se fatigue, notre corps est comme une tente qui s'use. Quand on a 18, 20 ans, jusqu'à 30 ans, après 30 ans, 35 ans, on s'aperçoit que l'élasticité diminue un peu. Quand on atteint nos âges canoniques, on s'aperçoit que ça passe très vite. Et qu'en fait, le physique, le matériel, c'est du temporaire, temporaire. La mort est une fatalité, mais Paul ne veut pas que nous nous attristions comme les autres. La mort n'est jamais une partie de plaisir. Paul l'a définie comme étant notre dernier ennemi. Aujourd'hui encore, malgré les progrès d'Internet, les réseaux en ligne, les avions, les transmissions instantanées d'informations, le ratio de mortalité est encore de 100%. Alors, c'est pas très gai. Et lorsque nous perdons un être proche, quelqu'un que nous connaissons bien, un parent, un ami proche, une connaissance intime, quelqu'un avec qui nous travaillons, quelqu'un qui fait partie de notre vie, des personnes qui nous entourent, c'est jamais drôle. Et Jésus lui-même a pleuré lorsque son ami Lazare est décédé. On ne sait pas s'il pleurait sur le fait qu'il allait plus le voir ou s'il pleurait sur la condition de la race humaine. Mais c'est pas mal d'avoir plein de chagrin lorsqu'un être cher nous quitte. D'avoir de la douleur. Et en fait, lorsqu'on a du chagrin, c'est pas pour la personne, surtout si c'est un croyant. Parce que la personne qui est croyante, qui a accepté le sacrifice de Jésus, qui connaît Jésus-Christ et qui est en lui, la parole nous dit à plusieurs endroits, Philippiens, quand on meurt ici-bas en tant que chrétien, on est instantanément transmuté, warpé, je ne sais pas comment dire, on est instantanément déménagé en la présence de Jésus. Et là, tout est guéri. Là, on peut le toucher, le voir. Et la personne qui est décédée peut-être vous dit « Oh, faites tout pour la réanimer, docteur !» Et la personne est là, non, je veux pas redescendre en bas. La seule motivation, ce serait peut-être de nous épargner la douleur de la séparation. Mais lorsque nous pleurons le décès d'un chrétien, d'un disciple de Jésus, d'une disciple de Jésus, c'est pas de la peine pour la personne, c'est de la peine pour nous-mêmes. Parce que la personne va nous manquer. Nous allons devoir apprendre à vivre avec l'absence. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Ça, c'était les paroles de Gilbert Bécaud, pour ceux qui ont un âge canonique. La mort est une douleur. Et on s'attriste à la mort. Mais Paul, ce qu'il dit, c'est pas « je veux pas que vous vous attristiez ». Arrêtez de pleurer, souriez, serrez les dents, sautez de joie. Non, il dit « je veux pas que vous attristiez comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui essayent de se faire croire qu'il n'y a plus rien, que c'est la vie est le fruit du hasard ». Et d'un seul coup, ce hasard fait qu'il y a une autre étape et la personne n'est plus là. Je me suis attristé sans espérance pour mon papa. Et je peux vous dire que j'avais le plus grand vide existentiel dans mon cœur. Je me demandais où était parti cet amour, où était parti cet être cher. Et ma conclusion, c'était une conclusion négative quant à Dieu. Je disais, si Dieu existe, il ne devrait pas permettre ça. Il ne devrait pas permettre la mort. Dieu permet la mort. Ce n'est pas lui qui l'a voulu, c'est l'homme qui l'a choisi en désobéissant à Dieu. Lorsque nous cessons d'obéir à Dieu, nous sommes comme Adam et Ève. La mort est entrée dans la race humaine par le péché. Et nous vivons avec ce péché comme un enfant qui naît de parents qui ont la maladie du sida, hérite lui-même de cette maladie. C'est pas juste, on se dit. Oui, mais Dieu a envoyé son Fils pour rétablir nos chances. On n'était pas là pour faire le premier péché. Maintenant, on continue de pécher parce que nous avons cette nature de pécheur en nous. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. Vous voulez y réfléchir ? Ce n'est pas le fait de voler un cheval qui fait de nous un voleur de cheval. Nous étions tous dans l'âme prêts à voler des chevaux. Et c'est le passage à l'acte qui fait que le cheval est volé. Waouh, ce matin, c'est un peu costaud, hein ? C'est pas grave. Nous ne devons pas avoir la même tristesse absolue. Le plus terrible, c'est les commentaires. J'ai un privilège dont je me passerai, c'est d'être appelé certaines fois à célébrer des enterrements, des funérailles. Des fois, c'est même des gens qui trouvent mon nom sur l'annuaire téléphonique et qui m'appellent parce qu'ils savent que la grand-mère était vaguement protestante et le pasteur protestant était en vacances. Donc, ils ont continué la liste et je ne rate jamais aucune de ces occasions. Parce que les gens sont confrontés à la douleur, à la mort. Et nous avons un message de vie à partager. Et donc, quand on a des personnes qui essayent de s'encourager avec des paroles vaines, au sens de paroles vides, du genre « Il est parti, mais je sais qu'il va continuer à nous regarder vivre. Il est parti, mais sa mémoire restera pour toujours dans nos cœurs. » Waouh, super. Les statistiques établissent qu'à part les gens très célèbres, au bout de 20 ans, on oublie jusqu'à votre existence. Vous dites, oui, mais ça va, moi je ne fais pas de soucis parce que je suis sur Facebook et les ordinateurs, ça ne s'élimine pas. On me dit que Google et Facebook gardent l'information pour toujours. Détrompez-vous, même s'ils veulent le faire, on n'est pas sûr qu'au bout de 20 ans, les supports électroniques courants, aujourd'hui, vont résister au passage du temps. Il y a des enregistrements, on s'aperçoit que les disques durs, ils sont un peu mous dans la durée. Il y a une érosion. Il y a le stockage, suivant les lieux, s'il n'y a pas un air pur, etc. Rien n'est éternel dans ce domaine. Donc c'est pour ça que vous pouvez être tranquille, utilisez Facebook autant que vous voulez. Nous ne devons pas nous attrister comme ceux qui disent tout est fini et qui essayent de se consoler avec des stupidités du genre « On ira tous au paradis. » C'est d'un vide, c'est... Pour moi, c'est la plus grande tristesse. Et nous qui avons quelque chose à offrir, nous devons nous sentir interpellés pour dire aux vivants, c'est trop tard pour les morts. Il est donné à l'homme de mourir une fois et après cela vient le jugement. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour les morts. Les catholiques le font, ça c'est pour des raisons financières. Alors peut-être que maintenant votre brave ami curé, il le fait pas par intérêt financier, mais à la base, on célébrait des messes annuelles, donc on garantissait des sources de revenus constantes. On pouvait acheter de l'or et mettre de l'or sur les reliques des saints, etc. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. En tant que croyant, vous croyez à la résurrection. Ressuscitation, non, c'est autre chose. La résurrection. Est-ce que vous y croyez? Si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, vous ne pouvez pas vous dire chrétien. Paul disait même dans 1 Corinthiens 15, « Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes de tous les hommes vivant sur la terre au cours des millénaires, nous sommes les gens les plus à plaindre. » Parce que nous donnons de l'importance, nous centrons sur cette résurrection, alors qu'en fait, c'était une supercherie. Quelqu'un a amené un corps en disant que c'était le corps de Jésus, ou on a fait disparaître son corps et on a dit « Ah, il n'est plus là !» Et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Moi, c'est moi Jésus, ah !» Non, on n'a pas le temps ici, je vous renvoie à des enseignements sur la résurrection que vous trouverez dans le site de Calvary Chapel Nice. La résurrection est le fait le plus certain de l'histoire de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication à ce qui s'est passé avec Jésus, avec la foi chrétienne, avec les disciples qui se cachaient, qui du jour au lendemain ont renversé les valeurs du monde, ont annoncé l'évangile dans le monde entier, au péril de leur vie. Ils sont tous morts, persécutés. La seule explication, c'est que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'en tant que chrétien, vous devez être capable de discuter avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui n'ont pas d'espérance. Et de dire que Jésus-Christ va ressusciter les chrétiens. Jean, chapitre 8, on n'a pas le temps de s'y tourner. Celui qui meurt, il va ressusciter s'il connaît Jésus-Christ. Les autres vont aussi être ressuscités, mais pour le jugement, sous-entendu le jugement négatif. À l'époque de Paul à Thessalonique, c'est important parce que souvent ces sujets de fin des temps, de mort, de résurrection, la résurrection, on en parle pour le dimanche de Pâques, puis c'est fini, on oublie. On ne parle pas de la grande tribulation, parce que ça c'est dans l'Apocalypse, c'est des sujets de controverse, c'est pas la peine d'embêter des jeunes chrétiens avec ces choses-là. Je vous rappelle que Paul n'avait été que 3 semaines, 3 sabbats, donc on pense qu'il n'avait enseigné à Thessalonique que 3 semaines, et il leur avait parlé pendant ces 3 semaines, les cours de nouveaux chrétiens, il leur avait parlé de la résurrection, il leur avait parlé du retour de Christ. Le retour de Christ, c'est pas une hypothèse, c'est le sujet dont il est le plus souvent question dans le Nouveau Testament. Il est fait 377 références au retour de Christ dans la parole de Dieu. C'est une certitude pour le chrétien, et les gens se disaient, il va ressusciter les morts, mais pour nous qui sommes encore en vie, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va ramener par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. Il va venir une première fois, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église qui est distincte du retour de Jésus pour juger la planète dans la fin de la grande tribulation et l'avènement du royaume de 1000 ans. Là encore une fois, on en a déjà parlé, je vous renvoie à ce qu'on a dit, on a pu déjà étudier notamment dans le livre d'Ésaïe sur le millénium, le royaume millénaire, le royaume de 1000 ans. Mais il est clair qu'il y a, même s'il y a différentes interprétations et on ne veut pas être arrogant et dire que les autres sont des imbéciles, même si on est convaincu qu'ils ont tort, on a une chronologie qui est la plus en phase, qui n'a aucune contradiction avec ce que l'on lit dans la Bible. Notre chronologie, c'est qu'à tout moment, il n'y a pas besoin de voir d'Antéchrist, de voir Israël déclenchait la guerre avec l'Iran parce que les Russes ont passé les fusibles nucléaires. À tout moment, Christ pourrait revenir pour son Église, pour l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Et suivant les prophéties notamment de Daniel, mais aussi de les explications de Jésus dans Matthieu 24, notre vision, c'est qu'après l'enlèvement de l'Église, il va commencer la période de 7 ans, la 70e semaine de Daniel, la période de la grande tribulation, qui va être un jugement de Dieu sur la terre. Ce n'est pas les persécutions d'aujourd'hui du diable et de ceux qui sont avec lui sur les chrétiens, de ceux qui sont aveuglés par le diable, le prince de ce monde. Non, la grande tribulation, c'est un jugement qui vient de la part de Dieu sur la terre. Et à la fin de cette période de 7 ans, Jésus-Christ viendra remporter la bataille d'Armageddon, un site que nous visitons lorsque nous visitons Israël. C'est intéressant d'avoir des études bibliques sur les lieux où les événements vont se dérouler, où les événements se sont déroulés. Ça donne une réalité, un relief formidable à la parole de Dieu. Après cette bataille d'Armageddon, Jésus va établir un royaume pendant 1000 ans sur la terre. À la fin de ce royaume de 1000 ans, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et ce sera pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont morts en chrétiens, qui pourront peut-être avoir vécu la période de la grande tribulation et être venus à Christ, mais pour tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ, ce sera la vie abondante en présence de Dieu pour l'éternité. Et ça ne doit pas être une espèce de mythologie, les Champs-Élysées du chrétien. Je vous rappelle, les Champs-Élysées, avant d'être une avenue à Paris, c'était ça faisait partie de la mythologie grecque. C'était la félicité avec les dieux et toutes leurs histoires qui ressemblent étrangement à des histoires d'hommes. Nous allons, nous, être en présence de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Et Paul amène l'accent. Il dit d'abord que Dieu va ressusciter. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons solennellement. Pourquoi ? Parce qu'il dit d'après une parole du Seigneur, peut-être une parole que Dieu lui a révélée personnellement ou une parole dont il avait connaissance, mais il nous dit voilà comment ça va se passer. Nous les vivants qui serons encore là lorsque Jésus reviendra, nous n'allons pas dépasser, nous n'allons pas devancer ceux qui se sont endormis. Parce qu'il va y avoir un ordre de préséance. Ça va être les morts en Christ, les chrétiens morts avant nous, qui seront morts au moment de Jésus, où Jésus reviendra, chercher son Église, l'enlever au ciel. Il va les ressusciter et il va venir ensuite avec des signes avant-coureurs, le Seigneur lui-même. Alors, reprenons verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. D'abord, le Seigneur ressuscite les morts, ils le rejoignent dans le ciel, et nous qui sommes encore vivants à ce moment-là, nous partirons les retrouver. C'est l'enlèvement de l'Église. Il y a toute une série de romans basés sur la Bible qui sont disponibles en français. Il y en a dans notre librairie de prêt sur ces événements. du jour au lendemain, un instant précis, les vivants, les chrétiens disparaîtront de la terre. Alors on fait des suppositions, peut-être qu'il ne restera que quelques vêtements par terre. Et puis on traversera les bâtiments, alors il vaut mieux être peut-être à l'avant du bâtiment, on n'a qu'un toit en goudron à traverser, que là on a 5 étages. C'est une plaisanterie, ça pose la question de savoir quel genre de corps nous aurons, à quel moment. Dès ce moment de l'enlèvement de l'Église, ou peut-être aussi dès le moment de la mort, nous recevons peut-être un nouveau corps, un espèce de scaphandre spirituel. Vous ne pouvez pas aller plonger très loin dans l'eau de mer, vous devez revêtir un scaphandre, mettre des vêtements de plongée. Dans l'espace, les gens ne sortent pas avec leurs shorts, leurs espadrilles et leurs t-shirts. Ils enfilent un scaphandre spatial. Pourquoi ? Parce que ce sont des conditions différentes des conditions dans lesquelles nous vivons ici-bas sur la Terre. Et nos corps qui se désagrègent petit à petit, on en a parlé, ne pourront pas vivre l'éternité. On voit déjà les ravages de quelques décennies plutôt. On imagine très bien qu'au bout de 1 million d'années, les rides ne seraient pas très belles à voir. Dieu va nous donner un nouveau corps qui nous permettra d'être comme le corps de Jésus, un corps éternel. Lorsque Jésus est ressuscité, il avait un corps avec des propriétés physiques particulières. La bonne chose, c'est qu'il a continué de manger. Donc on pourra continuer à faire la fête en mangeant. Il va y avoir un des événements du retour de Jésus-Christ, ça sera les noces de l'agneau et de son épouse. On va faire la fête. On ne va pas parler du mariage de Tonio, mais on sait que quand on fait la fête, il y a un mariage, on mange bien. Mais nous aurons un nouveau corps. On n'a pas le temps d'examiner les différents aspects, différentes hypothèses. Juste une chose pour attirer votre attention. Certains disent, il y a un coup de trompette. C'est les mêmes trompettes que les 7 trompettes de l'Apocalypse. Non, c'est pas les mêmes. Là, c'est l'appel des chrétiens vivants ou morts. Je vous fais remarquer, entre parenthèses, que Paul dit, nous les vivants. Il espérait déjà que cette enlèvement de l'Église allait se passer de son vivant. Alors vous dites, voyez, il s'est trompé, il n'a rien compris à la parole. Non, au contraire, bien au contraire, Dieu veut que nous vivions à chaque instant comme s'il était possible qu'il revienne. Il va revenir comme un voleur. Un voleur ne vous envoie pas un SMS pour vous dire « je viendrai demain à 15h35 » parce qu'on l'attendrait. Il veut que nous vivions à chaque instant. Pourquoi ? Parce que cette espérance, cette assurance d'un bien futur à venir, ça nous incite à vivre dans la sainteté. Est-ce que vous aimeriez, pour les garçons qui ont un problème dans ce domaine, voir Jésus arriver alors que vous êtes en train de regarder un site pornographique sur Internet ? Je ne le pense pas. Est-ce que vous aimeriez, pour vous les dames, être en train de médire ou de dire du mal d'une voisine lorsque Jésus vient chercher les vivants ? Je ne le pense pas. C'est une bonne chose et c'est une réalité. Avant ce soir, Jésus peut revenir. Il n'y a pas besoin d'autres signes avant-coureurs. Il va y avoir des signes avant-coureurs pour ceux qui verront l'Église disparaître. Ceux qui verront l'Antéchrist commencer à régner sur la terre, le monde va trouver que ce type est formidable. Il a plein de charisme, il est si intelligent, il règle les problèmes. Hier soir, on a réglé le problème des bouchons de circulation. On a passé 12 heures sur les routes au lieu de 8 heures qu'il faut normalement parce qu'il y a un bouchon de 6 km à Vintimille. Et on n'était pas les seuls, je crois que nos amis venant de Suisse ont eu le même sentiment. Il y a des règles de bon sens de... On pourrait régler le problème de la des embouteillages de la circulation. En France, on doit s'arrêter tous les 50 km pour payer à des péages. Alors qu'en Italie, maintenant, on paye quand on entre et on repaye quand on reçoit un ticket quand on entre dans le pays et on paye quand on sort. En Autriche, ils payent une taxe à l'année. Et donc, il va y avoir quelqu'un qui aura du bon sens. Mais comme on en manque tellement, contrairement à ce que disait Descartes, on va trouver qu'il est génial. On va dire, Obama, oh là là, yes we can. Alors ça sera peut-être pas Obama, ça sera peut-être Sarkozy revisité, mais il va y avoir un leader qui va régler les problèmes devant lesquels le monde va s'émerveiller, et cet homme va se révéler comme étant un adversaire de Christ. Il va se révéler comme l'antéchrist. Il va se faire adorer à Jérusalem dans un temple reconstruit. Mais pour le chrétien, il n'y a pas besoin de guetter l'arrivée de l'antéchrist. Le chrétien doit vivre chaque jour, chaque moment, comme si Christ pouvait venir le chercher. C'est pour ça qu'il est bon de toucher Jésus-Christ à tout moment, de vivre en sa présence, de vivre devant lui. Et on ira rencontrer le Seigneur dans les airs et on sera avec lui pour toujours. Lorsqu'il va revenir, dans l'Apocalypse, il y a des passages qui parlent des sept églises, de l'Église. Et puis lorsqu'il est question du retour, plutôt des jugements, l'Église a disparu de la terre. Il n'en est plus fait mention aucune fois. Alors qu'avant, je crois qu'on en parle 33 fois ou 37 fois. Pourquoi ? Parce que l'Église est au ciel avec Jésus. Et à la fin, nous revenons et nous allons régner avec Jésus sur terre. Nous allons gérer pendant le règne du millénaire. Ça, c'est la chronologie la plus logique. Celle qui tient compte de tous les versets et qui a une explication pour tous les problèmes que ceux qui pensent que ça va arriver avant ou après. Encore une fois, on ne les prend pas pour des imbéciles. On leur demande simplement de relire la parole. Même des grands commentateurs, les hommes les plus intelligents peuvent avoir des manquements. Pourquoi ? Parce qu'il y a des traditions qui ont la peau dure. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il y a de quoi être consolé. On s'aperçoit que l'essentiel, c'est pas maintenant. L'essentiel, c'est Dieu. L'essentiel, c'est pas ma petite vie. L'essentiel, c'est le plan de Dieu dans la vie éternelle. Imaginez que vous avez l'occasion, et je terminerai avec ça, d'être choisi parce que vous êtes inscrit sur un site, vous avez une agence qui vous représente, vous êtes choisi pour être figurant dans un film. Et en fait, dans ce film, vous allez le voir, et en fait, vous remarquez qu'il y a, pendant 2/5 de seconde, on vous voit de dos traverser la place. Waouh, ça y est! Je suis dans un film, c'est formidable. Alors vous dites à votre maman, maman, tu peux aller voir ce film, tu vas me voir. C'est tout de suite après, quand il y a la voiture qui rentre dans le magasin, il faut bien regarder à droite. Tu verras quelqu'un, on me reconnaît pas très bien, mais c'est moi. Waouh, maman va être toute fière. Elle va le dire aux voisins. Et puis imaginez que vous le dites à vos amis. Alors sur Facebook, ça va y aller. Oh, tu parles, qu'on te voit, je t'ai même pas reconnu. C'est pas très impressionnant. Et en fait, la façon dont nous vivons nos vies, c'est un peu comme si nous disions, nous allons organiser la projection du film pour que tous nos amis, tout le monde vienne nous voir. Alors qu'en fait, le film, il s'occupe pas de nous. Il s'occupe d'un personnage central, d'un acteur central, d'un héros. Et notre vie chrétienne, c'est la même chose. On oublie que le film, c'est pas à propos de Pierre, c'est pas à propos de Tim, c'est pas à propos de Sébastien ou de Nathalie. Le grand film, c'est à propos de Dieu et ce qu'il fait avec les hommes. Et si on n'a pas la perspective, on comprend rien à la vie. Le secret de la vie, je l'avais dit quand on avait parlé des vuvuzela, c'est d'être des trompettes qui annoncent que l'important, c'est de vivre à l'envers, de voir qu'il y a une éternité qui nous attend et que ce petit passage de 50, 60, 70 ans, 120 ans, si on est Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité à une époque, c'est une goutte d'eau dans l'éternité. Et que si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à la vie et qu'on ne devrait pas s'étonner d'être toujours perdu, d'être toujours déprimé, d'être toujours dépassé par les événements, de chercher le bonheur qui est dans le pré mais qui s'en va vite. C'est des foutaises tout ça. Jésus vous aime, il est venu, Dieu a un grand plan pour l'éternité. Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Amen.